Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Écoutez, vous allez voir ce que vous allez voir.
Art contemporain, qu'est-ce que c'est pour moi ?
Étrange.
Art.
Espace, œuvre, expérience.
Subjectif.
Art, je pense à quoi ?
Ah mais je t'ai dit que j'y connaissais rien.
Exposition.
La découverte. Du rire parfois.
Photographie, art plastique, dessin, installation, performance.
Ça peut servir à faire passer un message.
Art avec des crayons, une gomme.
Eh bien, c'est ce qui nous aide à vivre en fait, et dont on a tous besoin.
Ceci n'est pas une pipe. Bonjour et bienvenue dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. C'est la rentrée radiophonique sur Jet FM. C'est l'automne, les lumières cuivrées, les châtaignes et les jours de pluie sont de retour. Quoi de mieux qu'une balade en bord de Loire et au détour d'un chemin, la visite d'une exposition d'art contemporain dans une somptueuse architecture patrimoniale. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'exposition Inadéquat de l'artiste Olivier Petitot, présentée dans l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil à Mauges-sur-Loire. Cette exposition est ouverte jusqu'au 5 novembre, les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h. On va d'abord aller retrouver Bénédicte Chautard qui s'occupe de la programmation des expositions à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. Elle nous parlera du lieu, de son fonctionnement et de la programmation qu'elle propose. Nous retrouverons ensuite l'artiste Olivier Petitot qui nous présentera son travail artistique et nous emmènera dans les différentes parties de son exposition qui s'appelle Inadéquat. Allez, c'est parti, suivez-moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc je viens d'arriver à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil et on va retrouver Bénédicte Chautard qui s'occupe de la programmation des expositions art contemporain à l'abbaye. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Marine.
Merci de m'accueillir dans les locaux de l'exposition d'Olivier Petitot. Du coup, on est dans l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, qui est à la fois un bâtiment patrimonial et à la fois un espace d'exposition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce bâtiment ?
Oui, alors l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil est un ancien site mauriste et la commune de Saint-Florent-le-Vieil, à l'époque, a décidé de rénover et réhabiliter ce lieu en un espace d'exposition avec diverses salles d'environ 300 mètres carrés. Donc ça, c'était au début des années 2000. Et dans cette abbaye, on retrouve divers équipements culturels tels que l'auditorium qui sert aussi de cinéma et on peut y retrouver aussi des représentations de théâtre, notamment avec Scène de Pays. Et puis on retrouve également une microfolie qui est donc gérée par une collègue.
Est-ce que tu peux déjà te présenter ton travail ici ?
Alors je viens d'arriver à la commune de Mauges-sur-Loire au mois d'avril 2023 en tant que chargée de l'action culturelle sur les 11 communes déléguées que représente Mauges-sur-Loire. Et j'ai entre autres la partie de gérer les expositions à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil sur plusieurs saisons. Donc Olivier Petitot, c'est l'exposition de rentrée, mais il y a aussi une exposition pendant l'été. Voilà, c'est plus ou moins les deux grandes expositions que je mène à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, en sachant qu'Olivier Petitot va mener un projet qui s'appelle En miroir 2 avec les scolaires de Mauges-sur-Loire. Et ces scolaires, en fait, feront une exposition en mars 2024. Du coup, mon travail, représente entre autres les expositions à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, mais également tout ce qui se passe sur la commune de Mauges-sur-Loire, tel que le symposium de sculpture à Mont-de-Jean-sur-Loire tous les juillet, mois de juillet. Un festival de courts-métrages au mois d'avril qui s'appelle CIA, courts-métrages pour les plus jeunes, essentiellement de la maternelle au CM2.
Et du coup, sur la partie programmation d'exposition, comment ça se passe ? Est-ce que c'est toi qui sélectionnes les artistes ? Est-ce que c'est toi et d'autres gens ? Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe ?
Alors, pour cette exposition, Olivier Petitot a répondu à un appel à projet, un appel à candidature pour faire le projet d'exposition et le projet En miroir 2 avec les scolaires. Donc, c'était donc sous forme d'un appel à candidature. Ça, c'est tous les deux ans. Et puis, une année sur deux, c'est moi, en collaboration avec le chef de service culture et les élus de la commune, qui proposons à un ou plusieurs artistes d'exposer. C'est validé ensuite en commission.
Oui, parce que l'abbaye est assez grande. Il y a combien de mètres carrés d'exposition ?
Il y a environ 200 mètres carrés de salle d'exposition, voire plus, puisque il y a 100 mètres carrés dans la salle du chapitre, quasiment le double dans les caves, et puis ensuite des salles qui sont assez petites et étroites. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les artistes d'investir ces salles hautes et étroites avec les piliers de l'architecture de cette abbaye.
C'est un vrai challenge à chaque fois.
Exactement, surtout oui, les caves qui sont pas faciles à investir, assez froides, et la luminosité qui est assez compliquée aussi à gérer, à mettre en place suivant les expositions.
Et en même temps, quand on vient visiter l'abbaye, on peut à la fois, enfin les expositions de l'abbaye, on voit à la fois l'architecture du bâtiment et on peut découvrir le travail d'un ou une artiste contemporaine.
Exactement.
Et du coup, au niveau de la programmation, donc là, c'est Olivier Petitot jusqu'au 5 novembre 2023. En général, les expositions durent...
Alors, elles durent entre 2 mois et 2 mois et demi. L'exposition de rentrée dure un petit peu moins longtemps que l'expo d'été, qui court de mi-juin à fin août.
Du coup, entre la fin de l'exposition d'Olivier et juin, il n'y a pas de cycle d'exposition de prévu. Vous travaillez sur la préparation de l'exposition d'été?
Alors, non, il y a des expositions qui sont prévues. C'est essentiellement des associations locales qui investissent l'abbaye. Mais dans ce cas-là, elles investissent plus les caves et pas toute l'abbaye. L'ensemble des salles de l'abbaye est exclusivement réservé à la programmation des expositions gérées par le service culture. Donc là, après Olivier Petitot, on a 2 expositions qui vont avoir lieu. En novembre, une exposition avec 3 personnes qui vont investir les caves, 3 artistes de Mauges-sur-Loire. Et en décembre, c'est les élèves de Christophe Anty qui vont investir les caves également.
Et est-ce qu'on sait déjà qui sera exposé en juin ?
Non, pas encore. C'est en réflexion avec notamment le département de Maine-et-Loire. Et puis, moi, j'ai quelques petites pistes déjà, mais voilà, pas de retour sûr encore.
Très bien. Et donc, si on veut suivre l'actualité de l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil et trouver les informations qui correspondent pour justement savoir qui expose quand, où est-ce qu'on peut aller voir ça?
Alors on peut aller voir sur le site de la commune, donc sur le site de Mauges-sur-Loire, dans l'onglet « Se divertir ». Vous avez une partie exposition ou abbaye. Ensuite, vous avez le Facebook de l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil ou alors l'Instagram. Après, si vous voulez aussi des informations complémentaires, vous pouvez envoyer un mail à culture@mauges-sur-loire.fr.
Et puis sur l'agenda ready-made aussi, l'abbaye Saint-Florent-le-Vieil est référencée sur l'agenda ready-made. Donc vous pouvez aussi suivre l'actualité sur le site de ready-made et télécharger l'application mobile pour se déplacer en région des Pays de la Loire. Du coup, je vais aller rencontrer Olivier parce qu'on a la chance de le croiser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le lancement, c'est le vernissage. Merci beaucoup, Bénédicte, pour toutes ces réponses. Je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci, Marine, pour cette interview.
Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur JetFM 91.2. On est à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil et on vient de quitter Bénédicte Chotard qui vient de nous présenter la programmation des expositions d'art contemporain réalisées dans ce lieu. L'exposition en cours est visible jusqu'au 5 novembre, les mercredis, samedis et dimanches. Elle s'appelle Inadéquat. On va aller la découvrir en compagnie de l'artiste qui l'a produite, Olivier Petitot. Mais avant cela, nous allons faire une petite pause musicale avec le groupe Le Banon à Nonveur et leur chanson Sad Smile.
People say they like me, but how can I believe? They also like you, and you're exactly the one I hate. People sometimes say that I'm quite creative, but it's so confusing. They say it to you as well. Mm-hmm. saddest smile. I'm the one with the saddest smile.
Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur JetFM 91.2. On vient de faire une petite pause musicale avec le groupe Le Banon Hanover et leur chanson Sad Smile. Chanson choisie par l'artiste Olivier Petitot, qu'on va aller retrouver pour qu'il nous parle de son exposition Inadéquat, visible jusqu'au 5 novembre à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h. Allez, c'est parti, suivez-moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc on vient d'arriver à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil et je vais aller rejoindre Olivier Petitot qui va pouvoir nous présenter son exposition un peu plus. Bonjour Olivier.
Bonjour Marine.
Donc, on est ici à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. On vient de passer la porte et de rentrer sur la gauche. C'est une exposition qui est assez grande. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, donc bon, je m'appelle Olivier Petitot. J'habite Cholet et je suis originaire de la région où je suis né à Nantes il y a 48 ans de ça. Donc, c'est pas forcément une précision très importante à première vue, mais ça va en avoir peut-être dans l'expo, parce que c'est une expo dans laquelle j'ai mélangé des œuvres un peu plus anciennes, donc peut-être que c'est l'âge en fait qui m'amène à faire ça aujourd'hui, mais je me suis permis aujourd'hui de mélanger des œuvres récentes et des œuvres plus anciennes.
Et donc dans ta pratique, si tu devais définir un peu ce qui t'intéresse de manière plus générale, avant qu'on rentre dans les détails des œuvres que tu présentes ici?
Mais Pour les préoccupations les plus récentes, ça reste un travail autour de l'information en général. Je récupère des sources d'informations, que ce soit sur Internet, même à la télévision, dans les médias, n'importe où, tout type d'informations, que je vais retraiter plastiquement, les combiner, les associer, les torturer, les triturer, peu importe la manière. Et puis pour des œuvres un petit peu plus anciennes, bon là il y a des travaux en volume par exemple, il y a vraiment de la copie d'objets sur les thématiques du divertissement, ça peut être du soin, de l'hygiène, des choses comme ça. Des choses qui nous sont très proches en général, des objets donc, qui nous sont très proches mais que je vais, pareil, déformer, légèrement modifiés pour leur redonner un, pouvoir prendre un nouveau regard dessus. Dans ce premier espace, en tout cas, dans l'abbaye, c'est ce que j'ai tenté de faire, en fait. Une combinaison. J'ai pensé l'expo comme un parcours, parce que l'espace est déjà pré-pensé, enfin, même si c'est involontaire, de cette manière-là. En fait, c'est une succession de quatre espaces et demi, on va dire, parce qu'il y a un espace transitoire que j'ai aussi utilisé. C'est plutôt à faire dans cet ordre-là. Enfin, pour moi, l'expo est pensé un petit peu dans cet ordre-là.
Donc du coup, on va commencer par cette salle. On est plutôt au début de l'exposition.
Ouais, on est totalement au début de l'exposition. Bon, le nom de l'expo, c'est Inadéquate. Donc inadéquate, c'est vrai qu'à première vue, c'est même quelque chose d'assez négatif. Hein. En général, bon, c'est pas un terme qu'on emploie positivement. Donc en plus, pour une expo, donc moi j'avais envie d'utiliser ce terme-là parce que c'est ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de mettre ensemble des choses qui normalement ne sont pas combinées. Dans l'espace d'exposition, on va avoir une série ou des choses qui vont se répondre, qui vont d'emblée être pensées les unes en coïncidence avec les autres. Et là, c'est plutôt pensé comme un fourre-tout, mais un fourre-tout temporel. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres sur une quinzaine d'années avec des thématiques différentes, des perspectives différentes, des contenus différents. J'espérais que tout ce bazar réussisse à s'organiser ensemble dans un même mouvement, dans un même esprit. Chaque pièce a une identité propre à l'exclusion des autres, on va dire. Il y a des thématiques récurrentes. Je parlais tout à l'heure de l'information. Donc le premier mur, là, par exemple, sur la droite, c'est une série de 12 panneaux qui sont, à proprement parler, pas des œuvres, parce que c'est des projets qui sont à l'échelle 1 sixième, des projets de murs standards du type 2,50 m par 3 mètres. Chacune des pièces-là sont des combinaisons de données informationnelles. Alors, ça peut être des statistiques, ça peut être des éléments scientifiques, ça peut être des cartes, ça peut être même des jeux de mots croisés. Il y a une notice d'exploitation de radiateurs électriques. En fait, tout type d'information, pour moi, est récupérable, parce que seule, dans son contexte, n'a pas forcément un grand intérêt. La notice du radiateur, c'est celle-ci. Ça peut avoir un intérêt graphique. C'est vrai que à l'œil, c'est assez élégant finalement quand on la regarde, mais le contenu lui-même, bon, moi, de savoir que mon radiateur à 24 degrés, si je mets le thermostat, il réagit sur telle puissance de courant, ça m'intéresse pas tellement. En revanche, si on prend cette donnée-là et qu'on l'associe à une autre, il y a une inférence qui va se créer, qui est plutôt de l'ordre d'une quête presque poétique. C'est-à-dire que là, je prends celui-ci, donc c'est deux thématiques de statistiques totalement différentes qui sont associées, ça s'appelle complémentaire et complément alimentaire. Le choix, on peut comprendre tout de suite, moi, ce qui a aiguillé mon choix, en fait, pour ce type de graphique. C'est pas l'objet graphique lui-même, c'est bien la thématique. Parce que le jeu, juste le jeu de mots, le jeu sur les sons, c'est ce qui va être, moi, à l'origine de ma décision de réutiliser ces objets-là. Les 12 panneaux qui sont là sont des 12 panneaux de Dibon, donc d'alu, qui font une soixantaine de centimètres par 40 à peu près. Sur la plupart, il y a un fond de peinture, donc c'est une peinture du spray à la bombe, hein, qui fait toutes les lignes, les couleurs, et puis en général, c'est rehaussé avec des pièces de bois, un petit peu de treillis, ça peut être du treillis métallique ou des petites pièces de coriandre, des choses comme ça. Ouais. Donc beaucoup de matériaux qui viennent se combiner. Ce sont des projets. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui a été réalisé, parce que pour l'instant, je ne les ai pas montrés, d'ailleurs. C'était d'ailleurs une difficulté de se dire, est-ce que je montre des projets? Parce que ce sont que des projets, finalement. L'idée de départ, c'était pas de les exploiter tels quels, comme objets physiques, de se dire peut-être ce sont des œuvres à part entière, c'était vraiment juste de les proposer comme projet. Maintenant, de manière très terre à terre, si je ne les montre pas, les projets, je ne risque pas de les réaliser un jour, donc là, bon, j'en profite. Il y a celui-ci qui va être normalement réalisé en novembre, qui s'appelle Fête de famille et tolérance, et qui normalement va prendre sa place sur une grande cimaise de l'Artothèque de Vitré pendant plusieurs mois, en fait. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est des boulots de 2020, mais bon, ça fait déjà pas mal d'années que je travaille sur l'information, sur tout type d'information. Là, je prends donc cette pièce-là qui nous accueille. Bon, c'est un mobile, une œuvre à l'intérieur de laquelle il y a du mouvement. Donc c'est une copie à l'échelle 1 d'une machine à sous type pousse-pièce, des coin pushers, hein, comme on peut en trouver en France, dans les foires, dans les fêtes foraines, avec lesquelles on joue avec des jetons pour gagner des pluches. Sauf que celle-ci, elle est entièrement fabriquée en placo, avec un intérieur en faïence, comme une petite salle de bain. Le plateau qui coulisse, lui-même, une forme en toute faïencée, comme ça. Et c'est une œuvre qui est tout à fait fonctionnelle. Donc là, je peux prendre des pièces qui sont là. Et puis je peux jouer toute la soirée. Alors... Là, il y a très peu de pièces à l'intérieur. Je voulais un peu l'épurer pour éviter le côté trop ludique. Parce que c'est une pièce que j'ai exposée il y a assez longtemps, mais que j'ai montré une fois. Et il s'est avéré, le soir de l'inauguration, que c'était devenu, pour les enfants, un objet... au début, c'est une sculpture, après ils s'aperçoivent qu'on leur donne l'autorisation de l'utiliser, puis après ils s'aperçoivent que non seulement on peut l'utiliser, mais c'est un vrai jouet avec lequel on peut gagner de l'argent ou en perdre.
Il y a du vrai argent parce que c'est des vraies pièces.
Il y a du vrai argent dedans. Et les enfants étaient comme fous en fait, et ça commençait à monter dessus, à secouer l'objet. Donc c'était trop. C'était trop. Non pas que j'ai pas envie que les enfants s'amusent, au contraire, mais c'est pas la finalité de cet objet là. C'est si on s'inscrit uniquement sur le côté ludique, on oublie, parce que moi ce que j'ai voulu mettre dedans, justement, au contraire, pas de l'amusement strictement, plutôt une prise de distance en fait. Une machine à sous qui a plus de lumière, des lumières, des rouges, des verts, des bleus, qui clignotent, qui peut un peu pour nous hypnotiser, une machine à sous qui a plus de son, parce qu'en général, elles se produisent aussi du son, pour nous faire oublier qu'on est en train de jouer. Enfin, si on enlève toute cette dimension-là, il reste juste cet univers du jeu. Et c'est vrai que avec ce petit côté brut, placo-plâtre, fait dans le garage, c'est une machine à sous, mais c'en est pas une. L'idée, c'est, j'ai vraiment envie de faire une mise à distance. Après, c'est un mot que j'ai pas encore utilisé, mais dans ma pratique, je pense que ce qui recoupe quasiment la totalité de la pratique, c'est la notion d'ironie. Plutôt que de mettre la poussière sous le tapis en se disant, moi, ce genre d'objet-là, j'ai du mal à les comprendre, puisque c'est vrai, moi, ça part d'un étonnement. Je ne fais pas une machine à sous parce que l'objet me fascine. Il me fascine parce que je ne le comprends pas. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse bloquer dessus pendant des heures, qu'on puisse investir son temps et son argent dans ce genre d'objet, en fait. Mais plutôt que de ne pas en parler, parce que je le comprends pas, je me dis, OK, je vais traiter la question. Et ma manière de traiter la question, c'est de dire, je ne le comprends pas, est-ce que vous le comprenez vraiment? Et de créer une œuvre qui est identique, mais légèrement différente, c'est comme une sorte d'ambiguïté ironique, en fait, qu'on peut retrouver dans le langage où je vais formuler par exemple, je vais dire « Oh, tu as un très beau micro ». Bon, alors si on lit juste la phrase « Tu as un très beau micro » écrite, tout le monde va savoir que j'ai dit « Oui, effectivement, tu as un très beau micro ». Mais avec l'intonation et puis avec un contexte, finalement, ça apporte un sens qui est totalement l'inverse de ce qui était proposé au départ dans la formule. Et la réalité, quand je le dis, tout le monde va le comprendre, c'est que peut-être je le trouve pas si beau que ça, ce micro. Et les œuvres sont pensées de la même manière. C'est-à-dire que je dis la même chose, on voit bien la machine à sous, mais l'environnement, la manière dont c'est fabriqué, nous laisse supposer que c'est peut-être d'autres choses dont on veut parler. C'est peut-être juste avoir un regard un petit peu critique sur cet univers-là, en fait. J'espère que ça marche comme ça, en tout cas. Bon, on change de coin.
Allez.
On change de coin. Donc là, on va traverser tout le hall d'accueil de l'abbaye, qui est aussi un lieu qui sert de... Il y a une salle de cinéma à l'étage. Donc c'est un lieu multifonctionnel, donc il y a aussi des espaces transitoires. Mais moi, qui m'intéressait, parce que ça me permet d'avoir des propositions très différentes et d'utiliser ces espaces comme espace de... Voilà, comme le temps de pause pour pouvoir switcher sur un autre type de proposition. Donc c'est ce qui va se passer dans la succession des différentes salles. Là, j'ai deux petites pièces. C'est vraiment un travail sur la matière. Là, il y a une courbe statistique qui traite des productions énergétiques. Ça s'appelle électricité primaire. Donc c'est une courbe de fabrication d'électricité. Mais c'est juste une porte de placard qui est rainurée. Et là, c'est vrai que le prétexte pour moi des statistiques, je parle vraiment de prétexte parce que c'est aussi un plaisir de travailler de la matière à un moment donné, de répéter un geste, sur un support. Donc là, c'est vraiment une succession de traits de rainurage. Il y en a des centaines sur un même support, en fait, qui crée vraiment du contraste avec le stratifié de la porte de placard. Et c'est les deux, la pièce en face, qui lui fait face, en fait. C'est une autre proposition de matière, mais je les ai mises en face parce que c'est l'origine est un peu la même. C'est-à-dire que là, je récupère des portes de placard. Moi, je vais pas au magasin acheter une planche de bois et puis me dire « Ah oui, il me faudrait un format ». En fait, je récupère des planches prédécoupées, qui sont des chutes en général, et puis c'est déjà l'indication, elle est déjà là. Quelqu'un l'a choisi à ma place, il m'a indiqué ce qu'on pouvait mettre dessus. En fait. Je peux pas, si j'ai un panneau de MDF par exemple, me dire « Ah tiens, je vais le couper à telle taille et puis en faire quelque chose ». Je sais pas faire ça, ça m'intéresse pas d'ailleurs. Enfin, ce choix-là, on peut très bien s'en passer, il y a suffisamment de rebuts de ce type-ci pour pouvoir intervenir dessus. Et là, c'est une combinaison entre une planche de MDF que j'ai récupérée, qui fait à peu près 50 par 40 cm, et une pièce de cuir qui est elle-même en fait vendue par un récupérateur de cuir dans la région. Là, il y a énormément d'industries autour du cuir, du textile, et il y a certaines entreprises qui vendent des chutes. Et là, c'est une chute que je retouche pas, je les prends telles quelles. Celle-ci, elle est prédécoupée à l'emporte-pièce et je la réincruste comme de la marqueterie dans le médium. C'est une superposition de chutes. On va aller à côté. On va aller à côté parce que je pense que c'est la bonne articulation maintenant. Parce que. Donc là, on est dans une salle assez lumineuse. Donc ça commence à résonner pas mal, il commence à y avoir beaucoup d'écho. C'est une salle carrée, à peu près carrée, avec plusieurs grandes fenêtres qui donnent de la lumière et un grand pylône central ancien qui vient un peu proposer comme un chemin de ronde. Et toute la pièce est faite avec une succession de cimaises sur laquelle moi j'ai accroché une soixantaine de photographies, donc vraiment de manière très. Très linéaires, qui se succèdent les unes après les autres. J'ai jamais montré d'image, c'est la première fois. Je me suis dit que c'était le bon endroit pour le faire parce que justement les espaces sont séparés, ont des identités propres. Mais j'ai aussi eu envie de le faire parce que je pense que c'était le bon moment. C'est qu'à un moment donné, là tu vois, je disais que l'apparente abstraction de mon travail, elle est qu'apparente parce que finalement elle traite toujours d'éléments très très réels qui sont en général des sources d'information. À un moment donné, j'ai envie de passer de l'autre côté. L'autre côté, c'est y a quoi derrière les informations? L'exemple très simple, c'est un chiffrage qu'on retrouve très souvent, moi que j'ai pu réemployer par exemple, c'est les chiffres du chômage. Et vous allez avoir le ministre du Travail qui arrive et puis qui vous dit. Devant un parterre de journalistes qui vous dit ouais, les chômeurs, 3 millions, il y en a plus, il y en a moins, c'est super, c'est pas super. Et si on gratte un peu, ce gars-là n'a jamais rencontré un chômeur. Il sait pas ce que c'est, il n'a jamais touché un chômeur, jamais partagé la vie d'un chômeur en fin de droit, il sait pas ce que c'est en fait. Et c'est tout le grand pouvoir des chiffres et des statistiques, de l'information en général, c'est de regarder qu'une partie du réel, et c'est surtout de regarder à côté du réel. Ça vous donne l'information, ça porte bien son nom, ça vous donne une information sur quelque chose, donc ça déguise quelque chose, mais ça ne vous montre pas la chose même. Ces photos-là, l'envie que j'ai eue, c'était de montrer un petit peu ce qu'il y a derrière les chiffres. Donc la série, là, ce sont que des photos de liquidation judiciaire que j'accumule depuis pas mal d'années. J'en ai énormément, en fait. C'était pas un projet initialement d'exposer des images, c'était juste parce que au hasard sur internet, je tombe sur ce type de photos un jour et j'en trouve certaines qui étaient très étonnantes pour leur froideur, pour le type de sujet, le type de cadrage, qui sont souvent des cadrages très mécaniques. Par exemple, là on a une petite photo qui représente un toboggan qui est vraiment extrêmement bien centré avec des mauvaises herbes qui commencent à le recouvrir, et puis on voit en arrière-plan un contexte, ça sent la maison de lotissement de campagne, un petit peu. Enfin, il y a une vraie pauvreté, un vrai délaissement en fait dans l'image. Et moi, ces photos, je les trouvais vraiment fascinantes. Et la personne, bon, c'est pas moi, c'est que des captures d'écran, hein, c'est des images que j'ai prises sur internet, hein, que j'ai imprimées, qui ont été imprimées pour l'exposition. Le geste du photographe, qui n'est pas un photographe, qui est juste un exécutant qui travaille pour une entreprise, qui est là juste pour faire des constats et des listes d'objets qui vont être ensuite disséminés. Lui, il n'a pas l'œil d'un photographe, il a l'œil juste quelqu'un qui fait un recensement. Donc il y a un toboggan, donc il se met devant et il le cadre de façon presque excessive. On cadre rarement les choses d'aussi près, d'aussi... C'est intrusif, un peu comme ton micro. On parlait du micro qui est un petit peu intrusif parce qu'il est vraiment là. C'est pas sa place, normalement. C'est pas la place d'une relation d'échange. Et c'est pas la place, normalement, d'un photographe de venir se dire « Ok, j'ai ça à faire en photo, donc je vais le cadrer comme ceci, comme cela. » Et puis bon, si on regarde bien, il y a une vraie tristesse dans ces photos.
Oui, mais tu les trouves où exactement, ce que tu dis sur Internet, mais c'est
ben sur les sites, sur les sites dédiés aux ventes aux enchères, qui recensent toutes les ventes aux enchères. Et moi, je travaille du matériel de récupération industrielle, je les achète sur des ventes aux enchères depuis des années en fait, que ce soit mon outillage ou les matériaux, parce que sur un circuit classique du matériau. Bon, le placo, c'est très standard, on en trouve, des sacs de ciment, on en trouve, du bois de charpente, on en trouve, mais des dibons, des PVC expansés, des choses comme ça, des matériaux, des supports de communication, moi j'utilise beaucoup, ça on n'en trouve pas dans le commerce. Enfin, moi j'ai pas accès à mon échelle, et en les achetant dans des ventes publiques comme ça, ça me permet d'en accumuler, d'avoir du choix, et puis souvent, c'est des matériaux qui sont déjà passés dans une main ou une machine. Donc je parlais d'indications, je pense que le matériau, il a déjà plein d'indications, parce qu'il a été prédécoupé, parce qu'il a déjà été pré-usiné. Et moi j'aime bien rebondir sur ces matériaux-là, qui ont déjà une histoire industrielle en fait.
Et du coup c'est spécifié dans la vente aux enchères que c'est issu d'une liquidation judiciaire ou c'est...
Oui, c'est spécifié, oui. Ce sont des liquidations et toutes les photos-là... c'est le dernier moment avant l'éparpillement. C'est le moment où la clé, tout a été mis sous scellé, et puis des gens vont venir et tout emporter élément par élément, chacun chez soi. Donc ça acte terriblement un échec individuel, un échec artisanal, industriel. C'est tout ce que les chiffres évoquent sans jamais nous le montrer. Et c'est pour ça que je trouvais que venir à un moment donné, dire ce que les chiffres essaient de nous masquer, ça m'intéressait en fait. À travers ces photos, en plus, qui pour plein de raisons, des fois juste esthétisantes, puis elles sont drôles parfois. Le gars ou cette fille, c'est plutôt des mains d'hommes qui sont vraiment des grosses mains avec ces deux bagues mal posées juste pour les présenter parce qu'il y a l'exigence de les présenter. Moi, je la trouve très drôle cette photo.
Je trouve triste.
Ouais, bah aussi, elle est drôle et triste. Mais peut-être que moi, elle est triste. Je trouve ça drôle, mais bon, je sais pas. Voilà, il y a tout. Il y a des quartiers de viande, il y a il y a un chien dans le formol. C'est les animaux, c'est toujours très spécial de dire que ça devient une marchandise comme une autre à un moment donné. Ça nous laisse une trace assez impressionnante, en fait. C'est un constat assez impressionnant auquel on n'a pas forcément affaire sur... voilà, sur ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Donc la salle qui suit, c'est un petit espace qui fait une trentaine de mètres carrés. Là, je me suis fait un petit plaisir parce que j'avais envie d'intervenir sur l'espace, mais comme c'est un lieu classé, protégé, tout est compliqué. L'architecture se prête pas aux manipulations parce que bon, on peut pas y faire de trous, on peut rien faire. Donc l'espace est aménagé avec des grandes cimaises pour pouvoir accrocher des choses dessus. Sur un des pans du mur, il y a trois cimaises, donc ils font à peu près 2,50 m par 1,50 m en bois peint. Et en face, 3 mètres plus loin, il y a deux autres cimaises. Ce que j'ai fait, j'en ai décroché deux. J'ai fabriqué une grande courbe en bois, enfin grande, elle est assez effilée, elle n'est pas si grande que ça, mais bon, avec un chiffrage statistique. Et puis l'idée, ça a été de faire tomber les panneaux, les deux panneaux, et les maintenir en équilibre, ou en déséquilibre en tout cas, avec la pièce de bois. Ça fonctionne pas tout à fait comme prévu au départ, parce que en fait, le déséquilibre, le principe, c'est que ça revient vite en... Enfin, plutôt l'équilibre, ça devient vite du déséquilibre, donc... Il y a surtout un panneau qui vient s'effondrer sur la cour, mais tout est maintenu par cette espèce d'objet de bois un peu dégingandé, mais tout tient ensemble, tout tient ensemble comme ça. Cette fois-ci, j'ai voulu utiliser des statistiques plutôt comme un objet symbolique que de l'utiliser pour son contenu. En fait, là, le chiffrage, De départ, je dis pas ce que c'est, ça n'a pas l'importance. Enfin, il n'a pas de nom, elle n'a pas de nom, cette courbe. C'est un vrai chiffrage, mais c'est pas important. Ce que je voulais, c'était juste un développement, un trait pour pouvoir maintenir mes panneaux. En revanche, ce qui m'intéressait, c'était ce côté symbolique du les murs s'effondrent et les statistiques tiennent les murs. Je jouais sur ce paradoxe en fait d'un univers qui s'effondre maintenu par des courbes statistiques. Parce qu'à l'inverse, je pense que c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que c'est plutôt les statistiques qui auraient tendance à faire s'effondrer nos murs. Donc à la fois le déséquilibre il est physique et il est symbolique. Et alors j'ai appelé cette pièce, j'ai appelé le paradoxe du menteur, en référence à ce qui est au paradoxe du menteur d'un certain Épiménide le Crétois, qui disait, c'est un pré-socratique en fait, et c'est une proposition logique qui a fait réfléchir à l'époque pas mal de gens, parce que c'était vraiment à l'origine de la réflexion sur la logique du langage. Et donc Épiménide le Crétois dit « Tous les Crétois sont des menteurs ». Donc comme il est Crétois, il a menti. S'il a menti, ça veut dire qu'ils ne sont pas menteurs, etc. Et puis c'est une sorte de proposition qui se mord la queue, parce qu'il y a une confusion entre l'universel et le particulier. Et puis le concret, c'est bien que dans une formule logique de langage, on s'éloigne d'une réalité. On a une forme de langage qui n'est pas adéquate avec le réel. Et c'est un petit peu difficile de calquer cette proposition-là sur moi, la pièce qu'on a devant les yeux, là, avec cette statistique qui tient des murs. Mais il y a le même type de relation en fait, qui se joue. Enfin, l'évocation, pour moi, elle est là, sur ce type de relation entre qui fait tomber les murs. On estime que notre univers logique maintient nos murs, symboliquement. Mais d'un autre côté, si on fouine un peu, c'est plus cet univers logique qui fait tomber nos murs. Donc qui fait quoi et où est la confusion? Et la réalité, c'est que tout tient en équilibre. Pour l'instant, tout tient en équilibre.
Des vaches.
Des vaches. Et là, on a quoi là?
Un chat.
Non. Ça ressemble plus à un lapin là.
C'est quoi?
C'est ce que mamie aimait dans sa bouche.
C'est un dentier, on appelle ça. Là, c'est des tables.
Ouais.
Là, c'est des fleurs. Un fil. Non, c'est fil.
Pour toi, c'est un fil, ça?
Oui.
Un fil en quelle matière? Est-ce que tu reconnais la matière?
Un fil qui bouge.
Qui bouge? Comment ça?
Un fil...
Qui fait des... Il bouge comment?
Il bouge en cercle.
En cercle, en zigzag.
En zigzag. Une tortue.
Une tortue?
Oui.
Dessous?
C'est des poupées. Oui, en fait, c'est ça qui est en dessous le drap.
Oui, très bien.
C'est des poupées très bizarres.
On continue parce qu'on est pas avec vous, mais on approche de la fin. Il y a une petite pièce dans l'escalier, mais je crois que je ne vais pas en parler, il faudra venir la voir. Parce que...
On va pas tout dévoiler, donc.
Non, on va te garder la surprise. Puis c'est vraiment singulier dans l'espace de déambulation.
Donc là, on est en train de descendre dans la cave.
Ouais, alors c'est un parcours un petit peu tortueux, hein, parce qu'on ne sait pas où on va. C'est assez long, et puis il commence à faire plus frais. Plus froid, il n'y a plus du tout de lumière. C'est un éclairage artificiel, mais on sent qu'on arrive. On a descendu de quelques mètres et on va arriver d'un coup dans un espace qui résonne énormément. Et moi, quand on m'a proposé d'exposer ici, tout le haut, c'est des espaces lumineux avec lesquels je suis assez à l'aise. Et en revanche, cet espace-ci me met très mal à l'aise. Il est froid, il est tout en longueur, l'architecture est extrêmement importante, marquée. Les pylônes font quasiment la largeur. Il y a autant de pylônes que d'espaces de déambulation. C'est une pièce qui doit faire 20-25 mètres de long sur 5 mètres de large, 6 mètres de large. Donc on est tout est dans le profil, tout est dans la longueur. ça résonne énormément. Et en plus, c'est en pente. Enfin, tout était mis ensemble pour faire que c'est... Moi, c'est un espace qui était difficile à appréhender en tant qu'espace d'expo. Et ça se prêtait pas très bien avec mon travail, avec ma pratique. En général, il n'y a pas d'atome crochu. Donc, je me suis dit, je vais plutôt m'en servir comme espace d'expérimentation. Je vais essayer autre chose. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai sorti une vieille machine de mes caisses. Donc là, c'est la pièce la plus ancienne qui est dans l'expo. Elle doit être de 2008. Et comment décrire ça? C'est une structure pas circulaire, mais avec quelques anicroches dans le circulaire, qui fait à peu près un mètre sur un mètre, qui est posée au sol, qui a l'apparence, ben c'est du gel coat, le surfaçage, donc c'est vraiment l'apparence d'une baignoire, de la texture baignoire en synthétique. Et sur le tout au centre, au milieu, on a un tissu sérigraphié avec un dessin que j'avais fait sérigraphier à l'époque, et qui dissimule quelque chose. On a du mal à imaginer ce que c'est, parce que la soie bouge de façon presque aléatoire et vient un peu bouleverser la surface du tissu. Donc c'était une quête un peu pop art à l'époque. Je me disais, c'est des lignes concentriques blanc sur fond noir, et plutôt que d'avoir un mouvement rétinien, on va aller jusqu'au bout, on va avoir un vrai mouvement qui va modifier. Alors, bon, clairement, ça ne fonctionne pas très bien. Enfin, la machine, elle fonctionne, mais visuellement, le côté op art ne fonctionne pas très bien. Mais ça en fait un objet un peu bâtard, un peu démembré. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et quand je dis j'ai utilisé cet espace comme espace expérimental, c'est que j'ai voulu décliner cette pièce-là sous plusieurs aspects. Que là, on avance un peu. L'espace central qui fait 10 mètres par 6. J'ai rien mis dedans, en fait, sauf une pièce sonore qui a été pensée à partir d'enregistrements de la machine là, qu'on a vu à l'instant. C'est un ami, donc Frédéric Garraud, qui est musicien nantais, compositeur, qui m'a proposé, en concertation, on a travaillé ensemble, qui m'a proposé cette pièce avec, il n'y avait pas vraiment de consigne. La consigne, c'était quelque chose qui ne soit pas narratif, qui ne soit pas mélodique ni rythmé, juste pallier au manque de présence, simplement installé dans l'espace comme une présence physique, et essayer de surmonter l'écho. L'écho ici, à peu près, là, le temps de latence, c'est 2 secondes, ce qui est énorme. Le son, la présence du son, pour moi, ça, c'est une bonne façon d'employer l'espace. Et puis, finalement, tout au fond de la salle, sur un des murs de la cave, est projeté ce qu'on voit pas sur la machine de départ. C'est-à-dire qu'elle bouge, mais on ne sait pas ce qui peut la faire bouger. Et donc c'est une vidéo de l'intérieur, des entrailles de la machine. Et ça m'intéressait de le montrer parce que ça n'a jamais été pensé pour être vu. Au contraire, vu que c'était caché sous un drap. Mais quand je l'ai ressorti, je me disais, ah oui, mais c'est marrant, parce que c'est tellement hyper loin, hyper éloigné de l'objet final, qui est très, très doux, très léché, très... très dessiné. Là, on a juste une fabrication avec des moteurs un peu cheap, des morceaux de poupées, des œufs en plastique. Et tout est, c'est une machinerie, donc tout est fait pour s'agiter sous le drap. Quoi. Le comparatif entre l'intérieur et l'extérieur, comme on peut le faire avec n'importe quel corps, m'intéresse aussi, en fait, d'essayer de fouiner au-delà de la surface. Mais voilà, pour moi c'est vraiment un espace sensuel de déambulation. Et comme je disais, c'est plutôt expérimental, c'est des choses que j'ai jamais fait, jamais proposé de son comme ça. Donc je ne sais pas forcément où ça m'amène. Je pourrais peut-être en reparler dans un mois ou deux, quand tout ça, ça sera un petit peu digéré en fait.
Et en même temps, encore une fois, c'est bien parce que ça vient contraster aussi avec l'aspect très contrôlé de ce que tu présentes là-haut.
Ouais, c'est ça. C'est à un moment donné aussi, j'ai envie... Enfin, c'est pas de me mettre en danger, mais de pas être certain de ce que je propose, de pas avoir Je sais où ça commence, mais je ne sais pas où ça arrive. Cette fois-ci, c'est important de ne pas forcément savoir où ça nous amène. Parce que... Puis de faire confiance aussi à d'autres personnes. Enfin, je ne l'aurais pas forcément fait il y a quelques années. Je me serais approprié cet espace en me disant « c'est chez moi, c'est mon expo, et il va falloir que ça ressemble à du petit eau ». Là, peut-être parce que j'ai envie de me désincarner, peut-être aussi. C'est peut-être une vraie difficulté à un moment donné de se dire qu'on va ressembler à ces œuvres. Parce que pour plein de raisons qui sont des fois plus de l'ordre de la flemme intellectuelle, on va s'installer en fait dans de la répétition, qu'elle soit technique, scénographique. Et j'ai encore pas vraiment envie de ça. En fait.
Là, cette exposition, elle dure
Elle dure jusqu'au 5 novembre. Autant que je me souvienne, 5 novembre, c'est ouvert le mercredi après-midi, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, de 15h à 18h.
Et après ce gros projet d'expo, est-ce que tu as quelque chose d'autre de prévu ?
Alors, je crois avoir entendu parler d'une exposition de carnet d'artistes à Cholet, auquel j'ai l'honneur de participer. Donc c'est dans la galerie de l'école d'art du Choletais, donc qui commence le 7 octobre. Ça, puis différents projets. Pour moi, la plus grosse échéance, ça va être en janvier, donc chez Oniris, la galerie Oniris à Rennes, donc une expo personnelle qui va être couplée avec une œuvre à l'Artothèque de Vitré. C'est une proposition parallèle, couplée en fait, enfin d'un commun accord en tout cas. L'un normalement va pas sans l'autre.
Et si on veut découvrir ton travail en dehors de venir à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil pendant ton exposition Inadéquat, si jamais on veut voir ton travail en dehors de l'espace d'exposition, est-ce qu'il y a des endroits où on peut le voir ?
Aujourd'hui, strictement, non. Chez moi. Chez moi, à Cholet, si les gens sont intéressés, vous m'appelez ou vous m'envoyez un mail. Il y a mes coordonnées sur le réseau d'artistes des Pays de Loire. Donc ça, c'est... voilà, les coordonnées sont là. J'accueille tout le monde si vous êtes gentils.
Très bien, et bien du coup j'invite les auditeurs et auditrices à se déplacer dans l'espace d'exposition à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil jusqu'au 5 novembre pour découvrir ton exposition, Olivier. Merci beaucoup pour toutes ces explications et puis bah, je te souhaite une bonne continuation.
Merci d'avoir fait la visite, d'avoir été aussi attentive. Merci à toi.
Bonne journée, au revoir. C'était « Ceci n'est pas une pipe », l'émission qui vous parle d'art contemporain, sur JetFM 91.2. On vient de découvrir l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil et sa programmation d'exposition d'art contemporain avec Bénédicte Chautard. Et ensuite, on a visité l'exposition « Inadéquat » de l'artiste Olivier Petitot qui nous l'a présentée en détail. Nous les remercions chaleureusement pour leur accueil, leur temps et leur explication. L'exposition Inadéquat est visible jusqu'au 5 novembre à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil à Mauges-sur-Loire, les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h. J'espère vous avoir donné envie d'aller la voir. Cette émission a été réalisée par l'association Already Made, produite par Marine Combe. Chères auditrices et auditeurs, merci pour votre écoute. On se retrouve très vite, plus vite que d'habitude. Le 16 octobre, pour une émission spéciale qui présentera certaines expositions du WAVE, Biennale de l'art contemporain à Nantes. Alors je vous dis à bientôt pour continuer de regarder avec les oreilles.